Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Je suis contente de vous retrouver. Nous sommes en août et je dédie cette émission à mes parents, mes deux lions de parents qui sont nés en août sur cette terre. Voilà pourquoi à la fin de l'émission, vous entendrez la chanson de Jean Reynald, mon frère, qu'il a composée et qu'il chante et qu'il a chanté pour l'anniversaire de notre père. Je dédie également cette émission à tous ces merveilleux pompiers professionnels et bénévoles qui sont l'honneur de l'humanité, qu'ils soient au ciel ou sur la terre, car beaucoup sont morts pour nous sauver. Quand on parle du silence de Dieu, c'est oublier les anges humains qu'il met sur notre chemin et qui agissent à sa place. J'en suis convaincu, et j'en suis si convaincu qu'un jour, je vous en parlerai encore. Nous aurons connu, depuis quelque temps, deux épreuves terribles. Le Covid et ce feu si violent et si dévastateur. Mais nous voyons aussi que quand le mal se déchaîne, l'amour resplendit. Il y a bien sur cette terre des âmes d'élite que nous pouvons bénir et remercier, ou plutôt, remercions Dieu de les avoir placés sur notre chemin. Je ne vous apprends rien, et ce n'est pas un scoop. Notre solitude n'est pas celle que l'on croit. Elle existe, certes, mais elle est beaucoup moins puissante que la solidarité humaine qui jaillit dans toute sa splendeur au cœur du drame ou du désastre. Ils étaient tous là, les pompiers, les policiers, les agriculteurs et les autres, au risque de leur vie pour éteindre les feux. Ce fut ce que j'appelle la divine collaboration, la magnifique et spontanée fraternité humaine, le rêve de Dieu accompli. Aussi, même si des fous et des salauds hantent la terre, les saints finissent toujours par se montrer et dominer. On aura vu la puissance du feu, mais aussi celle de l'amour. Bénis soient les sauveurs de la terre et de nos vies. Je dédie aussi d'une manière personnelle cette émission à deux très jeunes gens qui font partie de mon paysage tarnais et qui, par leur grand-mère Germaine, font surtout partie de la famille de mon cœur. Ils s'appellent Maël et Alexis Soulet-Dory. Ils représentent la belle jeunesse d'aujourd'hui, hier enfant de cœur et servant Dieu, et aujourd'hui pompiers volontaires au risque de leur vie. Plusieurs jours, plusieurs nuits sans dormir pour arrêter le feu. Mes amis, nous allons maintenant terminer, deux sujets qui ont été abordés dans mes dernières émissions. Les maladies de la vertu, le livre du grand psychiatre André Verge, puis la morale et le plaisir. Parce que les horaires n'avaient pas permis de terminer ces sujets, et nous le faisons aujourd'hui. Alors commençons, si vous le voulez bien, par le psychiatre André Verge. Vous constatez que ces deux sujets dont je vous ai parlé tournent tous les deux autour de la morale et vont bien souvent dans le même sens. André Verge. Alors la dernière fois, nous avions terminé tout ce qu'il pensait sur le sacrifice. Et nous avions commencé à peine ce qu'il pensait du péché. Mais vous voyez, chers auditeurs, autant la notion de péché peut devenir morbide quand elle est mal exploitée, autant elle peut être bénéfique pour le psychisme des hommes, eh bien, il est important d'avoir cette pensée issue d'un médecin et d'un psychanalyste. Je vous dirais alors personnellement qu'on peut parler de catharsis, c'est-à-dire d'un effet de purification, de libération de la religion, par exemple en ce qui concerne la confession, comme on peut en parler pour une cure psychanalytique. Il est rare qu'un psychiatre voilà chose. Eh bien, Berge l'a vu. Je vous dirai alors ceci. Pour Berge, le péché peut se retourner aussi et devenir un épouvantail. Quand on l'agite, pour tout, créant ainsi la panique chez les cœurs fragiles et religieux. Et là, le verdict du docteur Berge tombe. Il y a des gens qui moralisent, comme d'autres, érotisent tout. Et figurez-vous qu'il voit un rapport entre ces deux attitudes. Mais il faut savoir qu'alors, la vertu devient oppressante et la vie invivable. Le sacrifice est un grand danger, sauf quand il est fait par amour, ce qui est assez rare, car il a un lien avec la mortification qui va à l'encontre de la vie. Un lien avec le masochisme. Un lien parfois, dit-il, avec l'orgueil, car c'est un moyen pour s'exalter soi-même. Vertu creuse, donc, quand l'amour n'est pas le moteur unique. Les êtres humains ne peuvent s'élever sans tenir compte des lois de la pesanteur. Voilà ce qu'a écrit André Berge. Tant il déteste ces morales crucifiantes qui dissocient l'homme en le coupant en deux et en installant un ring dans son cœur où se battront deux adversaires, le corps et l'esprit. Ces morales creuses et vides qui pourtant sont venimeuses et tuent bien souvent la joie de vivre et qui ne s'adressent qu'à l'intellect, oubliant que l'homme est fait de chair et de sang. Je fais une mini parenthèse pour vous faire remarquer, mais je crois que vous l'avez remarqué, qu'il n'est pas étonnant que j'aime autant ce psychiatre, puisque je pense exactement comme lui. La morale, dit-il, est faite pour tirer le meilleur parti de ce que nous sommes, a écrit André Berge. Et la morale devrait s'inspirer de la science du navigateur qui part de la connaissance de la réalité et non de sa négation. Vous voyez, mes amis, c'est très fort ce qu'il dit. Je le répète, la morale est faite pour tirer le meilleur parti de ce que nous sommes et la morale devrait s'inspirer de la science du navigateur qui part de la connaissance de la réalité et non de sa négation. Vous voyez, cette phrase est pour moi magnifique et si vraie. En nous, il y a un animal. En nous, il y a le meilleur et le pire. Les désirs les plus monstrueux, les pensées les plus meurtrières peuvent surgir de nous. Mais tout cela représente l'inconscient universel et pas notre inconscient propre. Eh bien, entendre cela, chers auditeurs, chères auditrices, suffit à nous détendre et à ne plus avoir peur de ce qui peut être en nous et dont nous ne sommes pas responsables alors que nous pensions l'être. Il y a même des personnes qui se prenaient pour des monstres. Et là, c'est magistral. Car André Berge clôt le sujet en affirmant que nous devons établir une distinction entre ce qui se pense en nous et ce que nous pensons. Nous ne sommes que spectateurs de certaines pensées qui surgissent et qui ne sont pas les nôtres. Et vous l'avez remarqué, on est souvent assailli par des pensées, des pulsions, qui sont des forces qui se manifestent, mais qui ne sont pas de nous. Elles se rapportent à deux principes, l'amour et la haine, ou encore la sensualité et l'agressivité. Et maintenant, je vais vous dire ce qu'ils pensent de la sensualité par rapport à la morale. Là, vous allez voir. C'est bénéfique de l'entendre ou plutôt de le lire. Mais quand on le lit, on l'entend nous parler, tant sa voix est forte et chaleureuse. Voilà, chers auditeurs, chères auditrices, sa phrase principale. J'ouvre les guillemets. une morale saine ne doit pas aboutir à émasculer l'homme et à rendre la femme frigide, et c'est pourtant parfois le visage que l'on peut faire passer pour le visage de la vertu. Point d'exclamation, je ferme les guillemets. Retenez le point d'exclamation. Or pour lui, le refus total et la peur de la sensualité nuisent autant à la morale que les débordements d'une sensualité impossible à contenir. Voilà ce qu'il a écrit. C'est par les sens que l'on apprend le monde extérieur et les êtres humains. Sans eux, tout nous serait incolore et sans saveur. Il nous avertit aussi, en nous disant que les gens qui fuient la sensualité ne sauraient être bons. C'est très important, je répète. Il nous avertit aussi, en nous disant que les gens qui fuient la sensualité ne sauraient être bons. Il nous donne l'exemple des personnes prudes et revêches à la vertu ostentatoire et à l'agressivité qui jugent les autres. Mais là où j'applaudis le plus, c'est quand il affirme, et j'ouvre les guillemets, « Il n'est guère possible de supporter l'existence sans jouir de quelque chose. » Je répète, « Il n'est guère possible de supporter l'existence sans jouir de quelque chose. » N'oubliez pas, mes amis, c'est un psychiatre qui parle. Bref, la sensualité n'est pas le mal et sa suppression n'est pas le bien. Sans sensualité, on meurt. Même si la sensualité qui devient tyrannique brise tout équilibre psychique, elle aussi. Alors, il continue à dire, toujours, des phrases importantes. J'en cite une. Il ne faut pas tout confondre, tout juger. Quand on parle par exemple d'émotion esthétique, on ne peut oublier la morale. L'émotion esthétique est morale, dans la mesure même où elle est esthétique. C'est-à-dire qu'elle introduit l'ordre et l'harmonie dans les données de nos sens. Voilà. N'est immoral que ce qui menace notre équilibre. Vous vous rendez compte? C'est absolument génial. N'est immoral que ce qui menace notre équilibre. Retenez cette phrase et vous pourrez la citer de sa part à tous les esprits moraux étriqués. Et l'agressivité, qu'en pense-t-il? Alors premièrement, qu'elle n'est pas à confondre avec la méchanceté, comme on le fait si souvent. Les actions vitales, dit-il, ont toute une composante agressive. Un certain tonus agressif est nécessaire à la vie. Même l'acte de manger, entre parenthèses, descendant d'hier où l'on mangeait sa proie, mais l'acte de prendre sa place dans la vie, ou les joutes oratoires, ou certains jeux, le sport est le bel exemple de celui qui combat sans haine, mais avec bien sûr une dose d'agressivité. Oui, mes amis, tous les sportifs ont en eux une dose d'agressivité. Autrement, ils ne pourraient pas jouer. Alors, apprendre aux enfants, retenez, c'est important aussi, apprendre aux enfants une éternelle gentillesse peut le rendre passif, au point, tout intelligent qu'il soit, de rester les derniers de la classe. Il ne faut jamais, jamais, selon André Verge, leur enlever le pouvoir de combattre sur tous les plans. Donc, une certaine dose d'agressivité qui est leur force, leur énergie. Alors, l'agressivité, me direz-vous, est à double tranchant. Elle peut être bénéfique ou néfaste. Et vous auriez raison, c'est exactement ce que André Berge nous dit. L'instinct combatif existe et doit exister. D'ailleurs, toutes les vraies vertus en ont besoin. On ne doit jamais, jamais, vous m'entendez, renoncer à soi-même, à se faire respecter, à vouloir conquérir ou s'étendre, à condition bien sûr de respecter autrui et l'équité. Si la morale ne se compose pas du tout avec le principe de plaisir, autant qu'avec le principe de réalité, si elle ne s'efforce pas d'intégrer toutes les forces primitives et prétend culpabiliser les exigences de la nature, elle a des chances de perdre. Elle a des chances de perdre quoi ? Elle a des chances de perdre son accent de véracité et de périr d'étouffement au lieu de donner naissance à des vertus susceptibles d'embellir l'existence et de préparer un meilleur avenir pour les humains. Et là, mes amis, la boucle est bouclée. La morale pour ou contre l'homme ? C'était la question posée par l'auteur. Il y a répondu. Deux morales existent. L'une tue, l'autre sauve. Une fausse morale dangereuse, une vraie morale bienfaisante. Et nous avons terminé avec ce magnifique livre, Les maladies de la vertu, de Berge. Alors maintenant, nous allons terminer la morale et le plaisir. Nous en étions restés la dernière fois à Diogène. Diogène. Nous avions parlé de Diogène. Et vous aviez vu combien il était particulier. Vous comprendrez, mes amis, pourquoi je ne peux pas aimer une certaine morale qui se dit religieuse. Aussi, je sais que l'amour inclut la morale, autant je sais qu'amour inclut la morale, autant je refuse que la morale soit une arme contre l'homme et contre la vie. Voilà pourquoi. Quand j'ai rencontré Friedrich Nietzsche, j'ai eu pour lui ce coup de foudre qui ne m'est jamais passé. Il exprimait d'une manière claire, puissante, magnifique, ce que j'avais toujours pensé. Et pourtant, j'avais 16 ans quand je l'ai lu. Ce philosophe grandiose a commis bien des erreurs, nous le savons, mais au sujet de la morale, il fut un éclaireur et un grand psychologue. Et je le rejoins, car il y a bien une morale qui est une tueuse de vie et qui n'a rien de moral. Ce que Nietzsche a montré, c'est le danger d'une telle morale. Danger pour l'homme, la terre et la vie. Oui, j'applaudis ses propos et ses démonstrations. Cette morale-là vient de ceux qui n'ont rien compris à la religion. Ils croient plaire à Dieu, en brisant son œuvre. Ils prêchent le mépris de la terre, alors que Dieu l'a créée pour nous. Ils prêchent le mépris de la chair, alors que Dieu nous a voulu incarner. Cette morale vient aussi des gens bornés, masochistes, qui confondent la morale avec la pureté, l'amour avec le sacrifice et la joie avec le sang. Ils font un hymne à la vertu et cassent en deux l'homme charnel, l'obligeant à une lutte perpétuelle à l'intérieur de soi. Vous voyez, on retrouve Berge. Eh bien, ce duel insensé et inhumain entre la chair et l'esprit. Ces moralistes, je vous le dis, me font peur. Oui, ces moralistes me font peur. Ils n'honorent pas Dieu. Ils crachent sur son œuvre. Vous comprenez pourquoi ? Je préfère l'amour à la morale. Et reste toujours proche de Jésus qui a proclamé, j'ouvre les guillemets, aime ton prochain comme toi-même. Car quand on aime son prochain comme soi-même, on ne peut rien faire de mal. C'est la vraie morale. Une morale issue du seul amour. Chers amis, chers auditeurs, vous remarquez que cette morale, issue du seul amour, englobe aussi la morale close dont parlait Bergson. Car la morale close, qui est une règle de vie, sous forme de loi et d'interdit, sert tacitement l'amour, puisque sur Terre, sans elle, la vie serait impossible. Ce n'est donc pas cette morale que je condamne, puisque je la juge vitale pour le monde et la société. L'ordre est toujours fait pour le bien-être des hommes, et pour la paix et pour l'harmonie. C'est d'ailleurs pour cette paix et cette harmonie qu'elle inclut nécessairement certains des commandements divins, tels que tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne convoiteras pas le bien du prochain, etc., etc., etc. Car que l'on croit en Dieu ou pas, faire ces choses rendrait la vie impossible. Je le redis, moi, je condamne une morale luttant contre la vie terrestre. Celle, la plupart du temps, de la religion, disons, de certains religieux, car tous ne sont pas ainsi, et j'en témoigne. Oui, j'ai connu personnellement de grands religieux, même de grands mystiques, qui étaient la gaieté et la grandeur d'esprit. Oui, ils nous conduisaient au large, mais ils étaient gais, et c'était ce qu'on appelle des bons vivants. Une morale demandant aux hommes de se couper en deux, de devenir des anges sans chair et sans sexe, de voir le plaisir comme un péché et non comme une joie. Cette morale-là, Nietzsche a raison, abîme la santé des hommes, santé physique, psychique, spirituelle, au point que certains en sont devenus fous, ou du moins déséquilibrés. La grande santé a besoin d'une morale à hauteur d'homme, d'homme incarné. Mettre le péché ou la faute, par exemple dans le sexe, et comment ainsi est-il possible, dites-le-moi, de penser à la joie des hommes, car pour moi le plaisir rend joyeux, ou du moins consolé. Eh bien, interdire cela, ce n'est pas être moral, c'est être perturbé. Oui, je vous parle en philosophe, bien sûr, mais avant tout en psychologue, et même avant tout en humaine. En humaine. Vouloir se dompter, comme on dompte un animal. Vouloir massacrer en soi les instincts et toutes les forces de vie. Vouloir s'immoler, se sacrifier, se priver, ce n'est pas rendre un hymne à Dieu, c'est se martyriser et se perdre soi-même. On n'enlève rien à Dieu, on n'enlève rien aux hommes, en se donnant du plaisir ou en se donnant au plaisir, à la joie, à la liberté de vivre. Il n'y a qu'un mal sur terre, un seul mal, celui que l'on fait aux autres. Il n'y a qu'une vertu, s'occuper d'autrui, l'aimer, et tout faire pour lui offrir, quand on le croise, le plus de plaisir et de joie possible. Et comme dirait Nietzsche, les crucifiés par eux-mêmes, avec leur tête sinistre, sont incapables de faire aux hommes un tel cadeau. Je vais intituler ce petit chapitre « Désir, plaisir, morale ». Voilà. Désir, plaisir, morale. Il est évident, mes amis, il est évident que la plupart des philosophes lient toujours ces thèmes et parlent de morale chaque fois ou presque qu'ils parlent de plaisir. Alors, quels sont les plaisirs compatibles avec la morale? Comment faire afin qu'ils ne dépassent pas une certaine limite? ont-ils le droit de citer ? Ou faut-il se méfier d'eux ? À quel danger nous conduisent-ils ? Mais aussi, quelle est leur raison d'être ? Eh bien, nous allons parler de quelques philosophes connus ayant abordé ces sujets. Mais je vous dirai avant ceci. Il n'y a pas de plaisir sans désir. Le plaisir est lié au désir comme il est lié au besoin. On lie toujours le plaisir au besoin, mais on a tort de dissocier le plaisir lié au corps du plaisir lié à l'esprit. Là, bien sûr, c'est moi qui vous parle là, hein. Parce que les murs élevés entre plaisir, désir, bonheur sont uniquement, figurez-vous, théoriques. Nous sommes faits de résonance. Nous ne sommes pas du tout compartimentés. Ce qui touche le corps touche aussi l'esprit et l'âme. Ce qui réjouit la chair apporte de la joie. C'est ainsi. Et chacun de vous peut le constater. Aussi, même dans la tristesse et même parfois dans le désespoir, le plaisir que l'on se donne ou que l'on vous donne surgit comme un antidépresseur, un calmant, une bouffée d'enthousiasme. Le rôle du plaisir, le rôle consolateur du plaisir est important dans la vie. Dieu et le plaisir, non seulement ne sont pas incompatibles, mais me sont personnellement les deux grandes forces de ma vie. Le plaisir donne toujours la joie. Si la vraie morale est une force vitale, le plaisir et la joie sont également deux forces de vie. Non seulement la morale n'est pas incompatible avec le plaisir, mais le plaisir l'honore bien souvent. Car on ne peut se limiter au réel plaisir du corps. Il y a aussi le plaisir du bien, le plaisir de l'esprit et le plaisir intellectuel, bien évidemment. Or, quand on fait du bien à soi ou à soi-même, vous l'avez remarqué, quand on fait du bien à soi-même ou à autrui, eh bien, vous l'avez remarqué, le plaisir surgit dans l'âme. Le désir n'a pas à être confondu avec le plaisir, et pourtant tous deux sont des appels du corps. Le corps, incluant la chair, mais aussi l'esprit. Car dissocier le corps de l'esprit serait une très grave erreur. Nous allons maintenant passer en revue quelques philosophes parlant du plaisir. Et vous verrez les points communs. Bon, je ne vais pas m'étendre sur la vision du pessimiste Schopenhauer, qui est, vous le savez pour moi, un artiste génial de la philosophie. Mais ne donnez jamais un de ses livres à lire à quelqu'un de dépressif. Mais je ne vais donc pas donner cette vision, mais figurez-vous que je vais la mentionner au passage en vous donnant sa phrase. L'homme va du désir à l'ennui et de l'ennui au désir. Bon, je le redis, vous constatez vous-même, une fois de plus, qu'il n'est pas optimiste. D'accord ? Il est évident que dans ces conditions, Schopenhauer, avec ce sinistre mouvement de balancier, ne peut créer un hymne à la joie. Et vous savez ce qu'il ajoutait encore ? Voici ces paroles, je vous les donne. Le désir satisfait fait place aussitôt à un nouveau désir. Le premier, déception reconnue. Le second, une déception non reconnue. Bon, il n'est pas devant moi, on ne peut pas l'interroger, mais reconnaissez que ce qu'il dit est curieux et n'est pas le langage d'un homme particulièrement gai. Alors maintenant, passons à ceux qui célèbrent et le plaisir et le désir. Je commence par Épicure. Ce philosophe prêche la tempérance, comme il conseille l'absence de soucis. Sa morale, vous le savez, est au service de la paix de l'homme. Il ne nous invite pas, certes, à une vie festive, mais il reconnaît le bien fondé du plaisir. Ayant comme but à la fois la morale et la santé, il ne dénigre pas le plaisir, mais il en montre les dangers quand celui-ci n'a plus de limites. Et même si je pense qu'il exagère avec sa soif de mesure, je ne peux lui donner tort, parce qu'il est très réaliste. Épicure nous demande de profiter des plaisirs, mais d'être sage pour éviter les conséquences désastreuses. Et il nous montre aussi, tel un médecin, et là encore il a raison, que nous ne sommes pas faits pour les plaisirs sans limite. Si l'on boit par exemple du vin ou du champagne, le plaisir au bout d'un moment va se changer en malaise, en nausée, en vomissement, si l'on en boit trop, si on dépasse une certaine limite. Ce goinfré des mets agréables donne le même résultat. C'est évident. On ne peut pas lui donner tort. Hein? On ne peut pas. Et je fais une parenthèse. Hein. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit déjà, même si vous le saviez avant moi. Les gens qui sont, les personnes qui sont stupides quand elles vous disent « je suis épicurienne ». Voilà. Et quand elles sont tout à fait au bord de l'orgie pour dire qu'il n'y a que le plaisir qui compte dans leur vie. Bon, parce que Épicure n'était pas épicurien. Ça, c'est exactement comme Descartes. Quand vous entendez quelqu'un qui, stupidement, mais sans le savoir, vous dit « je suis cartésien », pour dire « je ne crois, comme saint Thomas, qu'à ce que je touche, qu'à ce que je vois », Descartes, c'est vraiment pas le cas. Hein. Descartes, c'est vraiment pas le cas. Lui, Dieu était en lui, les idées innées sont en lui, etc., etc., etc. Il était très loin d'être cartésien. Il croyait en l'invisible, il croyait à l'impossible humain. Alors, pour Épicure, il y a trois sortes de désirs. Les désirs naturels et nécessaires. La faim, la soif, le sommeil. Ce sont des besoins, et si on ne les satisfait pas, on meurt. Il ajoute le confort minimal pour vivre, c'est-à-dire avoir un toit, pouvoir se vêtir. Mais ne souriez pas. Il met aussi dans ses désirs naturels et nécessaires la philosophie et l'amitié. Vous voyez, pour lui, la philosophie et l'amitié sont vitales, innées. Les désirs naturels et non nécessaires. Ils sont naturels. Mais si on ne les exauce pas, on ne meurt pas. Plaisir sexuel, plaisir esthétique, etc., etc. Et puis il y a les désirs non naturels et non nécessaires. Ce sont pour lui ceux qui donnent du tracas et qui empêchent la paix de l'esprit. Il les appelle encore les vains désirs. Soif de pouvoir, soif de posséder, soif des honneurs. Et ces désirs-là, dit-il, il veut que par une certaine assaise, nous les dépassions. Il l'a reconnu, et il l'a dit, que quand il parlait de plaisir, il ne parlait pas de sensualité, mais d'absence de douleur et de paix du cœur. Bref, d'ataraxie. Ataraxie. Alors psychologiquement, vous allez me dire, mes amis, psychologiquement, il n'a pas tort. Hein ? Il n'a pas tort. Parce que plus on possède, et plus on est possédé. Et un morceau de pain comble la faim et un verre d'eau la soif, c'est vrai, il nous l'a répété, parlant même alors d'un grand plaisir. C'est vrai aussi, qu'y a-t-il de plus joyeux ? Qu'y a-t-il de meilleur que de boire un verre d'eau quand on a soif ? Mais il y a des êtres, et j'en fais partie, qui ne se contenteront jamais de ce minimum vital et qui ne parleront jamais de plaisir face à une immense assaise. Sachez pourtant, chers auditeurs, chères auditrices, qu'il aura été fidèle à lui-même jusqu'au bout. Il a souffert atrocement, vous savez, avant de mourir. Et il continuait à parler de la paix de son esprit et à se souvenir des moments heureux de sa vie. Alors on n'est pas obligé de le suivre, on n'est pas obligé. Mais il ne faut pas oublier, jamais, que son but aura été d'offrir aux hommes et à la postérité le moyen de vivre en paix. Il prêche, par exemple, l'indépendance envers les choses extérieures, telles le luxe, non pas par morale, mais pour la paix du cœur. Car celui qui cherche le luxe se bat pour l'avenir, pour l'obtenir. On veut toujours plus, on n'est jamais en paix. On vit dans l'angoisse, l'attente, la déception. Oui, n'oublions pas que c'est dans le même esprit qu'il a voulu nous ôter la peur de la mort en nous disant qu'elle ne nous rencontre jamais. Car quand je suis là, elle n'y est pas. Et quand elle est là, je n'y suis plus. L'hédonisme considère le plaisir comme le seul bien dans la vie. Ce n'est pas l'épicurisme. D'accord ? L'hédonisme considère le plaisir comme le seul bien dans la vie. Et considère que le bonheur consiste dans le plaisir. On a traité et on traite souvent Épicure d'hédoniste, ce que je juge aberrant. Il a bien en effet longuement parlé du plaisir, mais lui, il ne l'a jamais eu pour but. Ce qu'il voulait connaître et offrir aux hommes, c'est seulement la paix du corps et de l'esprit. Je vous demande de bien retenir cela pour ne pas commettre une erreur. Il n'était pas hédoniste. Et quand on comprend que son seul but aura été de nous offrir la paix du corps et de l'esprit, je crois qu'on a tout compris. Autrement dit, ôter les souffrances physiques, morales, psychiques et spirituelles. L'absence de souffrance pour le corps, c'est-à-dire l'aponie. L'absence de souffrance pour l'esprit, qui s'appelle ataraxie. Les moines, vous savez, les moines essaient encore aujourd'hui d'être dans l'ataraxie, c'est-à-dire le calme de l'esprit, du cœur, la paix. Et il est vrai, mes amis, que lorsqu'on souffre, ou dans la chair, ou dans l'âme, on est prêt à dire qu'Épicure ne s'est pas trompé. Car plus qu'un plaisir, l'arrêt des souffrances est libération et bonheur. Le silence des organes est primordial. Et l'on considère alors les plaisirs autres comme agréables, mais superflus. N'est-ce pas ? C'est vrai. Quand on a mal à la tête ou ailleurs, et quand ça s'arrête, on se sent bien. On n'appelle pas un autre plaisir. S'il vient, tant mieux, mais on ne l'appelle pas. Alors, vous verrez, mes amis, Épicure n'aura pas été le seul à reconnaître l'existence du plaisir, tout en parlant de ses risques. Platon, le grand Platon, mais lui aussi a parlé du désir et du plaisir. Le désir a chez lui un caractère particulier. Il est à la fois manque et appel. Bon, inutile de vous dire que j'ai jamais cherché l'hymne au plaisir chez Platon, hein, jamais. Bon, il parle du désir sous deux aspects. D'abord le manque. Le désir, selon son mythe développé dans le banquet, est manque, pauvreté, misère. Surtout, et c'est le mythe, quand il s'agit de l'amour. Mais nous savons que pour Platon, il existe deux mondes. Le nôtre, monde d'apparence, et l'autre, seul monde réel, celui des idées. C'est-à-dire le ciel. Le beau, le vrai, le bien sont pour lui les seules valeurs à atteindre. Et Platon se sert aussi, malgré tout, du désir humain comme d'un tremplin pour monter plus haut. C'est l'autre aspect du désir qu'il ne faut pas oublier chez Platon. Il est un tremplin. J'explique. On commence par désirer un beau corps, par exemple. Puis on désire la beauté. Et l'on va ainsi jusqu'au qu'on monte des idées vers le beau absolu. Alors j'aime Platon, cet écrivain, ce dramaturge magnifique. Mais vous doutez bien qu'au sujet du désir, selon moi, il ne nous apporte pas grand-chose. Et pourtant, il est nécessaire pour donner une réponse à la question. Quelle question, me direz-vous ? Je vous la donne. Faut-il exaucer tous nos désirs ? Faut-il exaucer tous nos désirs ? Alors vous verrez qu'il répond à la manière de presque tous les philosophes de tous les temps, et en donnant d'ailleurs la même réponse. Non, il ne faut pas exaucer tous ses désirs. Pourquoi ? Il l'écrit, j'ouvre les guillemets. La tempérance est donc un certain ordre, une maîtrise que l'on exerce sur certains plaisirs et certains désirs. Je ferme les guillemets. Et vous savez bien, mes amis, que la tempérance est, chez les philosophes antiques, une vertu cardinale. Je vous rappelle que Cardo, C-A-R-D-O, en latin, signifie charnière, pivot. Alors une vertu cardinale joue un rôle charnière dans l'action humaine et engendre les autres vertus. Vertus, elles aussi cardinales. Je vous cite les vertus cardinales, la prudence, la justice, la force. Elles ont été mises en lumière par Aristote, Thomas d'Aquin, mais Platon en avait déjà parlé. Même si pour lui les trois autres vertus cardinales s'appelaient la sagesse, la justice, le courage. Vous voyez, mes amis, Platon rejoint Épicure, même s'il n'a pas l'exagération de ce dernier. Alors il faut vous dire qu'il est d'une famille princière, qu'il a des biens, une maison luxueuse, et qu'il ne se prive de rien, d'où d'ailleurs les propos désagréables sur lui, d'un philosophe qui s'appelle Diogène le Cynique. Vous devinez, que je me range aux côtés de Platon, qui est un immense penseur, un immense artiste et créateur, et surtout un homme très élégant. Que cherche Platon ? Que veut Platon ? Quand on a compris cela, on a tout compris. L'harmonie. Oui, il veut l'harmonie dans l'homme, comme il la veut dans la cité. Et vous voyez, c'est le même principe. Je vais continuer après un bobino.
Chaque été, plus de 50% des donateurs de Radio Courtoisie cessent de financer nos programmes, mettant dangereusement notre existence en péril. N'abandonnez pas votre radio sur la route des vacances. Radio Courtoisie continue d'émettre en juillet et en août, mais nous avons besoin de vous pour passer le cap de l'été. Donnez à Radio Courtoisie. Faites un don en ligne sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Voilà, je vous retrouve. Et cette harmonie dont nous parlons, qui est le but de Platon en tout, eh bien implique nécessairement la hiérarchie. Chez un homme, par exemple, cette harmonie existe quand l'intelligence, le cœur, les désirs et le plaisir, qui sont des appétits, s'entendent, et il faut un accord entre les trois. Mais c'est la raison qui doit toujours dominer et gouverner. Souvenez-vous de son image symbole de l'âme humaine. Elle est dans Phèdre. Socrate compare l'âme à un attelage. Un attelage formé par le cocher et deux chevaux. Le cocher a la raison, le décideur. Le cheval blanc aime le beau, le vrai, il est obéissant. Le cheval noir lui est impétueux, colérique, impulsif. En fait, il lui en fait qu'à sa tête. Il représente tout compte fait, le monde des instincts. Alors le cocher, je dis, c'est la raison. Eh bien, le cocher ne doit pas quitter la route et chavirer, et il doit toujours avoir le dernier mot. Remarquez, Saint Paul, tous les théologiens, tous les philosophes, et les psychiatres aussi, sont toujours d'accord avec Platon à ce sujet. Mais Platon sait bien qu'il est difficile de se dominer ainsi, Voilà pourquoi il place le courage dans les vertus. L'excès détruit l'harmonie d'un homme et son unité. Être esclave de ses pulsions conduit toujours à des catastrophes. Maladie, ruine. Platon ne condamne pas le plaisir. Il en jouit lui-même. Il en jouit. Il en condamne les excès. Il y a des plaisirs qui, par excès, deviennent nocifs. Vous voyez, on en revient toujours là. Faut-il par ailleurs réaliser tous ces désirs? Non, car il existe des désirs nocifs qui engendreront l'avilissement et le malheur. Car on ne doit jamais oublier que chez Platon, un lien existe entre le beau, le bon, le vrai. Oui, un lien existe entre le beau, le bon, le vrai. Quoi que l'on en pense, Platon ne parle pas de morale quand il parle de la nécessité de la tempérance. Son but, mes amis, est bien plus élevé. Alors il parle en médecin du corps et de l'âme, en religieux aussi, qui sait nous appeler. La morale pour Platon est toujours au service du beau, du bien, du vrai. Il faut retenir cela, toujours. En fait, Platon désire que l'homme se forme comme une œuvre d'art, qu'il soit sculpteur de lui-même. Sans la tempérance et la hiérarchie en soi des valeurs, qu'il s'agisse d'un homme ou de la cité, rien n'est possible. J'aime Platon. La réalité, mes amis, a toujours donné raison à Platon. J'aime Platon qui, tout idéaliste qu'il puisse être, parle ici, quand il s'agit des plaisirs, en philosophe, en psychologue, en interdit l'excès, parce que l'excès les convertit en déplaisirs et personne ne saurait lui dire le contraire. Alors, il n'est pas un ascétique comme Épicure. Le plaisir fait pourtant partie de sa vie. J'en reviens à ma question. Faut-il exaucer tous ses désirs? J'appelle Socrate, qui nous dit, j'ouvre les guillemets, « Le bonheur, c'est le plaisir sans remords. » Je ferme les guillemets. Je crois qu'il a raison. Il a raison, car les plaisirs qui seront ensuite des remords ou des regrets ou les deux ne doivent pas être accomplis. Il ne faut ni s'y adonner, ni même les connaître. Alors c'est là que se joue, selon moi, la plus grande moralité. On n'a pas le droit d'expérimenter volontairement le vice, le sale, le dépravant, le mauvais. Qu'on le sache ou non, nous ne sommes pas faits que de chair. La lumière nous habite aussi, et quand on se jette dans des expériences interdites par notre Dieu intérieur, alors à la sortie, on apprend la sinistre vérité, on s'est floué pour rien. Le désir est un appel, et le plaisir ou la joie n'y répondent seulement que lorsque le désir est beau. C'est ainsi, nous ne sommes pas faits pour le sale, le morbide, l'ignoble. Voilà pourquoi, à moins d'être malade, perturbé, inconscient, les désirs qu'il ne fallait pas réaliser sont toujours, une fois accomplis, des regrets et des remords. Bien sûr, mes amis, il ne faut pas en rester là, car se tromper de chemin est toujours possible, et se pardonner à soi-même est une obligation vitale. Un seul moyen existe alors, un seul, se tourner vers la lumière. Et bien sûr, quand on demande à Dieu, « Dis seulement une parole et je serai guéri », il faut croire qu'il nous guérit. Sinon, inutile de se dire chrétien. J'ai fait là une mini-parenthèse que je juge nécessaire, car nul homme aimant Dieu ne saurait être condamné par son passé. Et avant de parler d'un autre philosophe, je fais une autre parenthèse concernant le plaisir et le désir. Le plaisir se vit au présent et se renouvelle dans le temps. Et c'est là parfois le problème, car la réflexion et la raison n'ont pas le temps d'agir. Il y a, vous le savez, des personnes impulsives, c'est leur caractère, leur tempérament, qui agissent sur le champ sans prendre conscience des conséquences de leurs actes. Elles n'y peuvent pas grand-chose. Et sont répertoriées en caractériologie, vous le savez bien, chers auditeurs, chères auditrices, en caractériologie, quatre types de tempéraments existent. Nerveux, sanguin, bilieux, lymphatique. Pour Jung, par exemple, il y a 12 archétypes. L'innocent, l'homme ordinaire, le hors-la-loi, l'explorateur, le créateur, le dirigeant, le magicien, l'amant, le soignant, le bouffon, le sage. Alors je ne vais pas m'étendre sur le sujet, d'autant que je vous en ai déjà parlé. Oui, je vous ai parlé de ce type de personnalité créée par Jung. Je veux seulement dire que par tempérament ou par caractère, et les deux sont indépendants de la volonté des hommes, certains ont plus de mal que d'autres à être dirigés par la raison. Un être instinctif, par exemple, a plus de mal à se rendre compte des conséquences de ses actes, puisqu'il vit dans l'instant. Je ferme la parenthèse et repars vers un autre philosophe. J'ai beau être éloigné de lui, car sur Spinoza, oui, j'ai beau être éloigné de lui, sur divers plans, car pour moi il est un grand panthéiste, je me retrouve en lui, dans son hymne à la joie et au plaisir. Platon avait bien dit que le désir nous tenait en vie, et Spinoza l'affirme et le montre magistralement. Lisez, mes amis, sa phrase dans le livre 3 de l'éthique. J'ouvre les guillemets. Le désir est l'essence même de l'homme, c'est-à-dire l'effort par lequel il s'efforcera de persévérer dans son être. Pour lui, pour Spinoza, le désir est un affect mental. Pour lui, l'homme veut toujours obtenir quelque chose. Quand il s'agit des besoins du corps, dit-il, on parle d'appétit. Mais le désir est juste un appétit conscient. Donc, pulsion, appétit, avec conscience de soi. Il écrit qu'il n'y a pas de différence entre l'appétit et le désir. Bref, il ne fait pas de différence entre le corps, l'esprit et sa pensée qui est aussi la mienne m'enchante. Vous avez dû remarquer, mes amis, que l'on est souvent enchanté. Quand on rencontre une personne pensant comme vous, fût-elle un anonyme ou un grand philosophe. Tout ce qui fait plaisir au corps ou à l'esprit est bon. Et il a noté ce parallélisme que je reconnais et dont je vis. Tout ce qui réjouit le corps réjouit l'esprit. Tout ce qui réjouit l'esprit réjouit le corps. Je suis sûr, mes amis, que vous êtes également d'accord avec cette pensée qui est une expérience de vie. La joie, dit-il, augmente la puissance d'être. La puissance de l'homme qui est un, c'est-à-dire corps et esprit. Ceux qui veulent les séparer sont des malades. Ceux qui dénigrent le corps et en sens l'esprit sont des ignares, je résume, ces pensées que j'applaudis. La joie est toujours un plus de vie et le désir est une force de vie aussi. La tristesse est son contraire et pour Spinoza, c'est un moins de vie. Bref, c'est une impuissance nouvelle. Pensez, mes amis, aux dépressifs, qui n'ont plus aucun désir, et voyez ce que devient leur vie. Alors oui, on ne peut qu'applaudir les propos de Spinoza. Il n'y a pas de transcendance chez Spinoza. Dieu est partout. Dieu est la nature. Nous sommes dans l'absolue immanence. Alors même si en étant chrétienne, je ne pense pas comme lui, c'est évident. Sa philosophie au sujet du désir et du plaisir ne me semble personnellement pas du tout incompatible avec mon amour du Christ. Car le Christ aimait la joie, le plaisir et la vie sur terre. Comme l'a si bien montré, je n'aurais cessé de le dire, l'écrivain Didier Decoin dans son livre « Le Dieu qui riait ». Spinoza fait une différence entre la morale qui peut nous rendre esclaves ou nous briser, et l'éthique qui ne combat pas nos désirs, sachant que ce sont eux qui nous constituent. Elles se contentent de nous révéler ce qui sont positifs et ce qui sont négatifs. L'éthique nous montre comment s'aimer vraiment et aimer les autres. On ne cherche pas la vertu chez ce philosophe, mais la liberté et surtout le moyen, le désir de bien vivre ensemble. L'appétit et le désir ne sont pas des manques comme chez Platon, mais les richesses et l'appétit, mais des richesses et l'appétit est une jouissance et pas une souffrance. Aristote d'ailleurs le rejoint quand il a écrit « Aimer, c'est se réjouir ». Oui, Spinoza a raison. Le désir est l'essence de l'homme. Et toute joie vécue, vous le savez bien, par expérience, donne raison à Spinoza. Plus près de nous, André Breton nous répète, j'ouvre les guillemets, « Le désir, seul ressort du monde ». Et Nietzsche continue à nous crier « Le désir est signe de guérison et d'amélioration ». Et nous nous souvenons, chers auditeurs, chères auditrices, de Freud, nous apprenons que dès la naissance, le nourrisson connaît trois plaisirs. Et non seulement il les connaît, mais pour lui, ils sont vitaux. Je vous les cite. Plaisir, apaisement, quand la maman ou autre répond aux besoins. Plaisir érotique et tous les plaisirs du corps. Ce sont tous les plaisirs du corps. Le bébé, par exemple, aime être pris dans les bras, cajolé, massé. Plaisir de la pensée, car un bébé pense. Bref, tous ces plaisirs constitueront son moi et son équilibre. Et vous remarquerez deux choses. Deux choses. Ils sont liés à sa sécurité, à son bien-être physique et psychologique. Et vous remarquez encore que le plaisir est fondateur et est à la base de la vie humaine. Alors Spinoza avait encore raison, selon moi, quand il n'opposait pas le désir et la volonté. Pour lui, il ne faisait qu'un. On parle juste de volonté quand on parle de l'esprit. Mais la volonté n'est rien d'autre que le désir de l'esprit. Raison encore peut-être quand il proclamait qu'on ne désire pas une chose parce qu'on la juge bonne, mais qu'on la juge bonne, parce qu'on la désire. Oui, ceux qui ont réussi dans la vie, par exemple, ont répondu à leur plus grand désir, avec une volonté sans faiblesse, qui n'avait pour moteur que ce plus grand désir. Donc, désir et volonté sont synonymes. Oui, quand on aime par exemple une personne ou une chose, quand le désir est là, on prête des qualités à la personne ou à la chose sans analyse aucune. Et on la trouve désirable, parce qu'on la désire. Le désir est là encore premier. Même si de nombreux textes de lui sont ardus, il faudra un jour que je vous parle de ce Spinoza, de ce que Spinoza a pu apporter, non seulement à la philosophie, mais à la psychologie. Souvenez-vous de l'admiration de Nietzsche pour Spinoza. Car pour le philosophe allemand, le plaisir était bien la sensation d'accroissement de la puissance. Ce sont ces mots. Alors, je ne peux pas vous priver de ce que pensait Freud. Je ne peux pas vous priver de ce que pensait Freud. Et en plus, sa pensée est nécessaire aujourd'hui. Vous voyez, mes amis, comme la violence qui ravage le monde. Vous voyez comme moi, cette violence qui ravage le monde et nos villes et qui va jusqu'à tuer nos enfants ou en faire des meurtriers. Eh bien, le regard de Freud est très clair. Le relâchement moral de l'État entraîne celui de l'individu. La morale, pour lui, retenez bien ceci, est toujours liée à la société. Il est pessimiste, oui. Il sait que le mal ne part jamais dans l'éducation, mais qu'au moins, grâce à elle, il reste à l'état latent. Il donne donc une place primordiale à l'éducation. La civilisation est acquise par le renoncement pulsionnel. Oui, on refoule. Et c'est bien les pulsions égoïstes pour en faire des pulsions sociales. Vous voyez, il n'est pas contre le refoulement. On refoule, il faut refouler les pulsions égoïstes pour en faire des pulsions sociales. Il faut que vous sachiez que notre capacité à l'éducation est innée. À ce sujet-là, et à ce seul sujet, Freud est optimiste. Vous vous souvenez aussi de ce qu'il pense du sens moral. Il n'existe pas. Il n'y a aucun sens inné de la morale en l'homme. La morale, c'est le surmoi. Et vous savez, mes amis, que le surmoi n'est rien d'autre que les interdits parentaux et sociétaux introjectés. Freud a parlé de Kant et de sa phrase. Je vous cite la phrase de Kant. « Le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi. » Car Kant les avait accolés. Et pourquoi les avait-il accolés? Parce que pour lui, la loi morale en soi, c'était tout simplement la voie de Dieu. Même si je suis loin de le rejoindre dans la dureté parfois, dans son impératif catégorique, qui n'admet aucune adaptation et aucune circonstance atténuante, je reste touché par ses propos, car je me dis souvent qu'il a raison. Mais Freud ne croyait pas en Dieu. Pour lui, l'intervention de Dieu ou de la loi morale en nous, c'est le Père. On inventait Dieu, pour Freud, on inventait Dieu pour continuer la protection que l'on avait dans l'enfance, Dieu le Père. Et Freud nous dit que l'amour compte. Pour l'amour des parents autant que par crainte, des punitions, l'enfant se civilise et quitte ses impulsions premières. Être aimé ou la peur de ne pas l'être est souvent la motivation d'un enfant. Pour Kant, le siège de l'impératif catégorique, c'est la raison. Pour Freud, c'est uniquement le surmoi. Pour Kant, l'impératif catégorique est signe de liberté et de libre arbitre. Pour Freud, il s'agit d'une contrainte, mais d'une contrainte nécessaire. Dans le livre qui s'appelle « Le malaise de la civilisation », il écrit que tous les hommes ne peuvent pas arriver à un haut degré de moralité. Car, j'ouvre les guillemets, il y a dans l'homme la bête sauvage à qui est étrangère l'idée de ménager sa propre espèce. Vous voyez, il n'était pas optimiste. Hein ? Alors vous savez que Freud a été un scandale aux yeux des bien-pensants quand il affirmait que les enfants avaient une sexualité dès le plus jeune âge et qu'ils étaient des pervers polymorphes. Voilà, pervers polymorphes. Imaginez la tête des parents d'entendre dire que leur bébé est un pervers polymorphe. Freud a dit quelque chose de très important. Ce n'est pas la morale qui est à la base du refoulement. C'est le refoulement qui rend possible la morale. Vous vous rendez compte? Cette phrase est à méditer pendant des heures. Ce n'est pas la morale qui est à la base du refoulement, comme on le croit et comme on lui reproche, mais c'est le refoulement qui rend possible la morale. Donc il ne faut jamais dire que Freud a été contre le refoulement. Vous voyez que Freud n'a jamais été pour le renoncement au refoulement, comme le croient ceux qui ignorent complètement Freud. Un jour, il a parlé des folies et des horreurs des pervers sexuels. Il les a appelés, j'ouvre les guillemets, des pauvres diables qui exigent la satisfaction qu'ils ont tant de peine à se procurer. Je ferme les guillemets. Il était, avant nous dit, pessimiste de nature. Je me souviens un jour où il a dit à sa fille: tu vois ces belles maisons avec ces belles façades? Eh bien, les choses ne sont pas toujours aussi belles derrière les façades. Ben, c'est la même chose avec les êtres humains. Je ferme les guillemets. Et un autre jour, il a dit à un pasteur que l'éthique lui était étrangère et qu'il n'avait découvert que fort peu de bien chez les hommes. Mais Freud est psychiatre. Et il est normal qu'il ait été confronté à des individus particuliers qui ont pu lui donner parfois cette sinistre impression. N'oubliez pas non plus que pour lui, nous sommes un composé de forces redoutables et qui souvent s'affrontent. Le ça, monde des pulsions. Le surmoi, monde de la morale. Le principe de plaisir. Mais aussi les pulsions de mort. Je vous l'ai dit, il parle en psychiatre. Et il parle de psychologie morale. Et il a remarqué, et là je le rejoins, ouvrons les guillemets, le masochisme moral. Oui, la morale, a-t-il écrit, a besoin du masochisme, besoin de punition. Il y a derrière elle souvent une puissance de destruction et un sadisme du surmoi. Vous pouvez mettre entre guillemets puissance de destruction et sadisme du surmoi. Freud nous apprend aussi que la morale sociale évolue et que la morale individuelle est ce que la morale veut qu'elle soit, ce qu'elle permet. Oui, la morale individuelle évolue d'après la morale sociale. Exemple, tout ce qui était amoral ou immoral hier devient normal, telle l'homosexualité, telle la guerre des genres, etc., etc. Et j'ajouterais même qu'il n'est plus moral de juger ces faits. On a vu que Freud n'était pas pour la suppression de tous les refoulements et pour la libération de tous les instincts. Il y allait du bien-être de l'individu et de la paix d'une société, bref, du vivre ensemble. Et si pour lui la morale n'est pas basée sur la psychologie, alors je vous le dis, elle peut faire des ravages. La santé, c'est la paix entre le ça, le moi, le surmoi. Il faut donc guérir et briser les conflits. Il faut donc être psychiatre pour donner des conseils quand la personne est tiraillée entre des forces puissantes et ne trouve pas de solution. Exemple donné par lui, la veuve. La veuve, voulant rester fidèle à son aimé mari, mais étant tombée dans une grave névrose à cause de sa forte libido et de son désir de passer à l'acte. Quelqu'un se fait son conseiller, hélas, et lui dit « passez à l'acte ». Elle rencontre un homme et passe à l'acte, et de malade, elle devient très malade. Pour guérir, il lui faudra d'abord l'harmonie entre le ça, le moi et le surmoi. Et c'est un psychiatre seul, vous m'entendez, un psychiatre seul, qui peut la sortir du marasme. Si la morale n'est pas basée sur la psychologie, elle peut provoquer, comme je le dis, de grands dégâts, névrose, psychose. Et c'est ce que Freud a montré. Mais, et je crois que c'est le plus important peut-être, Freud met en garde contre les morales destructrices, particulièrement la morale sexuelle, qui est, et là c'est le médecin qui parle, à la base de nombreuses névroses, et a dénoncé violemment, et je l'applaudis, l'hypocrisie et la grande nocivité de cette morale-là. Je le rejoins, comme j'ai rejoint Nietzsche. Nietzsche, que Freud a aimé et glorifié. Il y a bien une morale contre la vie, morale religieuse, qui voit la chair comme un péché. D'où, je le dis entre parenthèses et très doucement, secrètement, les névroses de nombreux prêtres ou religieux. Et c'est grave. C'est grave de rendre malade ceux qui font tout pour le bien des hommes. Maintenant, mes amis, même si pour moi Freud est un immense médecin, je suis obligé de le confronter à Jung. Non pas que je préfère Jung à lui, car pour moi les deux ont tant apporté au monde, mais parce que Jung est chrétien et qu'il a pu, par conséquent, guérir des personnes que Freud n'aurait jamais pu guérir. Je parle de ceux qui étaient la proie d'un refoulement de la spiritualité. Car le refoulement de la spiritualité est aussi grave, vous entendez, aussi grave que le refoulement sexuel et conduit pareillement à des névroses, ou pire. Pourquoi l'homme est-il toujours en conflit avec lui-même? Pourquoi? Il y répond. Je vous résume bien sûr, mais je vais vous lire sa phrase. J'ouvre les guillemets. Chaque être humain vit un conflit entre une morale interne et une part animale. Je ferme les guillemets. Pour Jung, comme pour Kant, chacun porte la morale dans son âme. Là, je le rejoins totalement. Alors pour lui, cet instinct animal en nous ressemble à la volonté de puissance de Nietzsche ou au vouloir vivre de Schopenhauer. Il est puissant. Mais pour Jung, le moi est tout aussi puissant. Oui, le principe du moi et l'instinct sont d'égale puissance chez Jung. Croyez-vous, mes amis, qu'il faille pour lui faire dominer le moi, qu'il faille lutter contre notre part animale? Certes pas. Si nous renonçons à notre part animale, nous ne serions pas complets. Si nous nions le corps, nous ne serions plus des êtres à trois dimensions, mais des êtres aplatis qui auraient perdu leur essence. Ce sont ces mots. Et c'est un psychiatre qui parle. Il se peut, dit-il encore, que l'on acquiert une certaine liberté en se détachant le plus possible de notre part d'animal, de notre instinct animal, avec le risque de sombrer dans la névrose, car cette rupture avec la part animale est à l'origine des névroses. Vous vous rendez compte ? Vous rendez compte ? C'est fort. Vous voyez qu'il faut entendre Freud et Jung. Personnellement, en ce qui concerne la morale, je rejoins et l'un et l'autre, tout dépendant bien sûr de leurs affirmations. Étant chrétienne, je reconnais la voix de Dieu en moi, et je peux rejoindre Freud quand il cherche l'harmonie entre nos diverses forces, mais je rejoins Jung quand il parle de l'union de notre corps et de notre âme, une union à ne jamais détruire. Voilà pourquoi j'ai, comme Freud, cette colère contre les morales mortifère et glacial. Nous allons maintenant voir en quoi le plaisir est moral et pourquoi il est stupide et vain de le confronter sans cesse à la morale, puisqu'il en fait partie. Il est naturel et nécessaire comme la faim et l'apaisement de la faim. Le plaisir est vital et les neurosciences ont démontré cette réalité une fois pour toutes. Elles nous ont appris, et c'est important, que nous dépendions des quatre substances qui sont en nous, c'est-à-dire dans notre corps. La dopamine, l'oxytonine, la sérotonine et les endorphines. Alors les endorphines agissent comme des calmants naturels et provoquent bien-être et même parfois euphorie. Elles sont importantes pour l'humeur, le sommeil, le sport peut les stimuler, le rire aussi. Les contacts avec les hommes, la musique. La dopamine joue un rôle immense pour les fonctions cognitives. Quand on en manque, c'est terrible. Mais écoutez bien, quand on en a trop, c'est terrible aussi. Car cela peut conduire aux addictions, alcool, jeux, etc. L'ocytonine est appelée hormone du plaisir ou hormone du bonheur. Elle est présente dans tous les liens d'attachement, enfant-parent, mais aussi dans les phénomènes d'empathie, de générosité, dans la joyeuse sexualité. Bon, elle a un grand pouvoir dans les troubles anxieux. La dopamine, vous le savez sans doute, est l'hormone du plaisir immédiat, alors que la sérotonine est celle du bonheur. Autrement dit, elle stabilise le moral, l'humeur, dans le temps. On parle, mes amis, d'antidépresseurs sérotoninergiques, quand on donne ces médicaments à un patient. On parle d'antidépresseurs, voilà. Oui, il y a un lien entre la biochimie cérébrale et l'équilibre et le bien-être dans la vie. Il existe désormais des médicaments augmentant la sérotonine, quand c'est nécessaire. J'arrête là mes exemples, je ne suis pas médecin pour pouvoir vous en dire davantage. Mais vous comprenez pourquoi toute morale qui ne tient pas compte du corps, est selon moi immorale, car stupide et dangereuse. Et vous comprenez aussi pourquoi, en cas de problème, je n'ai jamais cessé de vous le répéter, il est préférable d'appeler un psychiatre plutôt qu'un psychologue. Seul le premier a le pouvoir de découvrir ce qui appartient au corps ou au psychisme. Et seul il a le pouvoir, si besoin est, de remédier à un problème par des médicaments. Oui, ça ne sert à rien d'aller chez un psychologue, de parler des heures, si un seul médicament qui manque dans le cerveau aurait pu suffire pour arranger les choses. Et ça, seul un médecin peut le donner. Bon, il y a aussi des êtres qui ont une prédisposition génétique au bonheur, comme il y en a d'autres qui ont une prédisposition à l'angoisse ou à la mélancolie. Ils n'y peuvent rien. Bref, nous ne sommes pas responsables, comme on peut le croire, de nos sensations et de nos états d'âme. Pas toujours, en tout cas, pas toujours. Bon, si le cortisol appelé hormone du stress augmente, la tristesse peut surgir. Si la sérotonine augmente, l'enthousiasme peut surgir. On n'y peut rien. Voilà. Notre corps a été fait par un immense créateur, un médecin qui s'appelle Dieu. Mais la médecine de la terre est là pour réparer les manques du corps, car dans certaines maladies, les choses se détraquent. Oui, la morale doit toujours tenir compte de la psychologie, de la biologie, de la physiologie. Oui, la morale doit tenir compte de ces choses. Prenons par exemple un exemple, la libido sexuelle. Je précise, car chez Freud, la libido, c'est-à-dire le ça, contient tous les instincts. Hein. L'agressivité, et pas seulement l'instinct sexuel, comme la plupart des personnes le croient. Eh bien, si l'on prend la libido sexuelle, il y a des êtres qui en sont grandement pourvus, et d'autres moins, et d'autres pas du tout. Quand il s'agit par exemple d'un appelé par Dieu, un psychiatre devrait intervenir avant. Car si celui-ci est habité par une forte libido, répondre à l'appel et entrer dans les ordres pourrait tout simplement le conduire à la maladie ou au désespoir. Je le dis, ayant vu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des religieux par ailleurs magnifiques, sombrer. Le plaisir est moral. Il fait du bien. Et tout ce qui fait du bien à soi-même ou à autrui est moral. Oui, se faire du bien et en faire aux autres est une très grande vertu. Issue de la bonté et de l'intelligence, tout simplement. Il ne s'agit pas de prendre le plaisir ou même le bonheur pour but de l'existence, car le sens de la vie demande des buts plus élevés. Mais les buts plus élevés, quand on les atteint, ou même quand on tend vers eux, demandent des buts plus élevés encore et procurent du plaisir à l'esprit, au cœur, voilà, à l'être entier. Se priver du plaisir et croire plaire à Dieu est une stupidité sans nom. Je repense à mes séjours d'hospitalière à Lourdes quand j'étais jeune marié. J'ai vu des hospitaliers choisir les lieux les plus pauvres pour résider. J'en ai vu d'autres à l'hôtel mangeant à toute vitesse pour courir vers les malades, dont pourtant d'autres au même moment s'occupaient. Je les regardais, perplexe. Nous vivions tous un rythme effréné. Nous étions tous fatigués. Pendant que je savourais mes moments de détente, respirant l'air frais traversant la vitre à la table où je me délectais des plats servis et du vin frais coulant dans ma gorge, je les voyais se hâter, sans prendre la moindre pause, comme si le moindre plaisir avait été une faute, et même une faute de goût. Chacun est comme il est, et nul n'a le droit de juger. Mais je savais que mon bien-être n'enlevait rien à personne. Au contraire. Une seule chose m'attristait. Qu'ils ne puissent, mes aimés malades d'une semaine, connaître tout simplement ces plaisirs simples que je vivais. Mais ils en avaient d'autres, surtout à Lourdes, malgré tout envers tout. Alors, ne pas m'adonner à ces plaisirs simples ne leur aurait vraiment rien apporté. Nous n'arrêtions pas de leur faire plaisir, des plaisirs à leur portée, et ils étaient doués pour les recevoir. Et les plaisirs leur offraient la joie et même la joie de vivre. Faire plaisir aux autres est la plus belle preuve de l'amour humain. Croire que le plaisir personnel est égoïste est une erreur insensée. D'abord parce que souvent il se partage. Ensuite, parce qu'il irradie autour de soi. Moi, je n'ai jamais vu des personnes dépressives ou torturées ou des lugubres grenouilles de bénitiers ayant la capacité de rendre heureux les autres. Et c'est peut-être là la plus grande faute du monde, la plus grande faute au monde. Le plaisir est un diamant aux mille facettes, un cadeau divin, n'en déplaise aux austères moralistes. Je parle toujours des plaisirs, jamais du vice, car le vice n'est pas le plaisir. C'est juste un fantasme qui, une fois encore accompli, se change en mal ou en néant. Se vautrer dans la boue n'a jamais lavé quelqu'un. Ceci dit, attention, ne jugeons pas trop vite. Il y a parmi les soi-disant libertins, comme ceux des clubs échangistes, de nombreuses personnes atteintes d'anhédonie, c'est-à-dire d'incapacité de ressentir du plaisir dans n'importe quel acte agréable, normalement agréable. Ces personnes peuvent même non seulement ne plus se réjouir de rien, mais être aussi incapables de pleurer. Bref, une étrange indifférence les saisit. Oui, oui, ne jugeons jamais. On ne connaît pas les êtres et surtout l'intérieur de leur être. Le plaisir est moral, avons-nous dit, mais il est aussi une chance. Et tous ceux qui l'offrent aux autres sont des généreux et divins donateurs. Mon père en faisait partie, et je pense que je lui dois aussi de voir le don de rendre les autres heureux comme la plus belle qualité d'un homme sur la terre. Et quand j'entends le Christ dire « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », eh bien je sais que le plaisir, la joie et le bonheur, donné et partagé, s'appellent l'amour. Le plaisir est moral, puisqu'un Dieu l'a créé. Plaisir du corps, du cœur, plaisir de l'intellect, plaisir de l'esprit, tous les plaisirs sont bénis de Dieu. Tous, les désirs sont naturels et au-delà de toute morale. Le corps désire et appelle ce qui va le combler. Le cœur désire, car le cœur a soif d'un amour absolu. Le cerveau désire et apprend chaque jour. L'esprit désire sans limite, même ce qu'il ne connaît pas encore, parce qu'il tend vers un absolu infini. Désir, plaisir, ça s'appelle la vie n'est rien. On n'a pas tous les mêmes plus grands plaisirs, les mêmes plus grands désirs, ni même la même morale. Mais vous remarquez, mes amis, que ce qui fait l'humanité, ce qui fait l'humanité, c'est quand même l'universalité et du plaisir, et du désir, et de la morale. Mais nous avons vu, vous et moi, la morale du plaisir, et nous nous sommes souvenus, vous et moi, que faire le bien et aimer les autres était aussi un plaisir. Il n'y a pas que le plaisir du corps pour être heureux et ressentir une joie immense. Nous n'avons pas sur Terre, heureusement, que des combats entre le plaisir et le devoir. Il arrive que les deux communient ensemble. Il arrive qu'ils soient alliés et certes pas rivaux. Bon, j'aurais voulu terminer sur cette note gaie, mais je me souviens de la phrase de Barbé d'Aurevilly, quand il a écrit « Le plaisir est le bonheur des fous, le bonheur est le plaisir des sages ». Vous doutez bien que je suis très loin de cette pensée. Non, bien le bonheur peut disparaître à chaque instant. Et si je devais faire une hiérarchie, ce que je trouve stupide, c'est exactement le contraire que j'écrirais. J'écrirais « le plaisir est le bonheur des sages ». Et sage, la vie nous oblige à l'être un jour ou l'autre. Il est sage de savourer les plaisirs de la vie sur la terre. Et encore plus de remercier Dieu. On dit que le plaisir est momentané, c'est vrai, mais un plaisir qui se répète a le droit d'être appelé joie. Le bonheur est un cadeau de luxe, qui dure, mais pas pour toujours, du moins ici-bas. Alors le plaisir devient la consolation suprême, car on l'a sur soi, avec soi, et on peut l'attendre. Mais il est toujours disponible, il est riche de lui-même. Il est une habitude dont on ne se lasse pas. Les moments de plaisir qui reviennent comme les vagues sur la plage, c'est aussi pour moi le bonheur. Voilà. Je continuerai. Je croyais avoir fini aujourd'hui, mais c'était une illusion due peut-être au climat, à la canicule. Terrible. Je vais donc conclure et vous dire simplement, que je vous souhaite un bon mois d'août et on se retrouve en septembre. J'espère que vous ne souffrirez pas de la canicule et que vous vous réjouirez de ce mois d'août. Je laisse la fin à mon frère Jean Reynald, c'est à toi. Bon anniversaire, papa, maman, c'est Jean qui au ciel vous l'organisera comme il a toujours fait sur terre. Au revoir mes amis, à bientôt.
Un jour disant, quelques printemps, passe le temps, 8 fois 10 ans, rêve d'enfant, tout s'est exaucé, te voilà grand, récompensé, tu as la gloire et les honneurs, le même regard. Le même cœur, simplicité, joie d'exister. Tu es resté ce que tu es. Le vent du nord t'a poussé fort, loin des corons, vers l'horizon. Sur les podiums du monde entier, toi le médium, tu as rêvé. Tu t'es donné à la musique, tu t'es donné à ton public, tu t'es donné à une femme, tu t'es donné comme une flamme, tu as ce feu qui te consume, l'amour de Dieu qui te résume, et la musique résonne en toi, et la musique surgit de toi. Quand tu diriges, tu nous transportes dans un vertige, tu nous emportes. Dis maestro, merci, bravo pour cette joie que l'on te doit. Petit garçon aux cheveux blonds, c'est la passion et l'ambition qui t'ont conduit là où tu es, qui t'ont conduit sur les sommets. Mais dans tes yeux, il y a toujours ce même bleu, ce même amour. Petit garçon, tu as le don d'aimer et d'être aimé. Des fois 10 ans, et aujourd'hui, des fois 10 ans, des cheveux gris, tu es ce père et ce grand-père qui a offert un univers. Des fois 10 ans, pas important, des fois 10 ans, va de l'avant. Des fois 10 ans, pas important, de l'avant.
Vous venez d'entendre le libre journal de Lumière de l'Espérance, dirigé par Isabelle Prêtre. Émission préenregistrée le 3 août 2026 et diffusée sur Radio Courtoisie dimanche 9 août, de midi à 13h30 et réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros, ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.